Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet de l'IFOP. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la mesure de l'opinion publique française et aussi plus qu'un sondeur. Vous avez créé un nouveau modèle d'évaluation politique en comparant les intentions de vote, les tendances électorales avec l'appartenance à des catégories sociales et à leur répartition géographique, d'où le titre de votre livre « L'archipel français ». Et c'est pourquoi sur Europe 1, nous vous demandons de nous faire la radiographie de l'état électoral de l'opinion à la veille de la rentrée politique et à moins de 600 jours de l'élection présidentielle prévue en avril 2022. Avec pour première question, Jérôme Fourquet, peut-on dire d'ores et déjà qui Emmanuel Macron affrontera au deuxième tour des présidentielles et si le président de la République sera à coup sûr à ce deuxième tour?
Bonjour. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop présomptueux et puis il faut essayer de tenir compte des enseignements des précédents scrutins. Rappelez-vous, 2 ans avant l'élection de 2017, on tenait pour argent comptant que le duel final opposerait Nicolas Sarkozy et François Hollande. Aucun des deux n'a été en capacité de se présenter. Dans cette période qui précédait le scrutin présidentiel de 2017, l'IFOP avait sondé les Français et 2 ans avant, 70% de nos concitoyens refusaient la perspective d'un duel Sarkozy-Hollande. Nous avons reposé ce type de question il y a quelques mois et nous obtenons à peu près le même résultat sur un refus d'un second tour Macron-Le Pen. Donc il peut se passer beaucoup de choses. On a des péripéties sanitaires avec la crise du coronavirus, une crise économique sans précédent. Donc si aujourd'hui, par certains aspects, les deux personnalités politiques les plus identifiées restent et demeurent Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et donc ce qui rendrait plausible ce scénario, les précédents historiques et la volatilité du corps électoral nous incite à la prudence et donc il faut être très modeste sur les pronostics qu'on pourrait être amené à formuler.
Est-ce que c'est valable pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen?
Alors je pense que ça peut être valable pour les deux. On a aujourd'hui effectivement, quand on regarde objectivement les choses, un président de la République qui bénéficie d'une cote de popularité aux alentours de 35 à 40%. Ce qui est, somme toute, dans un paysage assez compliqué, assez positif. Et donc, il a une assise et il a un socle. Marine Le Pen...
Il a un socle aussi solide qu'en 2017.
Alors, 2017, ce socle, je ne sais pas s'il était solide. En tout cas,
ça lui a permis de
gagner.
Ça
lui a permis d'accéder au second tour. Alors, c'est un point intéressant que vous soulevez là. Dans une société que j'ai définie comme étant archipélisée et un scrutin à 2 tours... Aujourd'hui,
mais dites, justement, c'est assez intéressant de revenir. Bien sûr, on connaît la définition que vous avez établie de l'archipélisation de la France. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, j'ajoute une question, est-ce que la crise sanitaire a archipélisé plus qu'avant?
Alors, sans doute qu'elle a plutôt, cette crise sanitaire, révélé souligner un certain nombre de fractures qui étaient déjà préexistantes entre les cols blancs et les cols bleus, par exemple, entre ceux qui ont pu suivre à l'école et puis tous les décrocheurs.
Vous voulez dire les élites et les autres?
En partie, voilà, il y a ce phénomène-là. Entre ceux qui, dans le monde du travail, sont relativement protégés, des fonctionnaires, des salariés des très grands groupes, et puis ceux des secteurs qui vont être beaucoup plus exposés, la sous-traitance, les indépendants, les commerçants. Donc on est sur des lignes de faille qui existaient déjà, mais qui ont sans doute été renforcées.
Il y a aussi des lignes de faille entre les communautés.
Alors on a ça également, qui n'ont pas forcément été mises encore davantage sous tension à l'occasion du Covid. Sans doute l'ont-elles été après, avec... le mouvement Black Lives Matter, par exemple, et ses échos en France. On voit aussi ce qui se passe en termes de montée de la délinquance dans un certain nombre de cités et de quartiers de nos villes. Donc, tout ce paysage-là nous envoie vers un diagnostic d'une société qui est émiettée, fragmentée, divisée en îles et en îlots. Et donc, tout ça, bien évidemment, a des répercussions, des traductions électorales. Ce qui fait que dans un système à 2 tours, ce qui compte aujourd'hui, c'est la capacité d'agrégation que peut avoir un leader. C'est-à-dire, combien d'îles et d'îlots peut-il entraîner derrière lui et arrive-t-il ou arrive-t-elle à un socle de 20-25% des voix qui semble être aujourd'hui le seuil de qualification pour le deuxième tour. Et donc c'est ça la question qui se pose à chacun des leaders, à chacune des familles politiques, c'est serons-nous capables d'accrocher le seuil fatidique des 20 à 25% et serons-nous aussi capables, accessoirement, d'aller décrocher un pan d'électorat concurrent pour les faire pencher ou passer sous ce seuil-là. Dans le contexte actuel, nous avons aujourd'hui, manifestement, Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui auraient cette capacité-là. Pour les autres, c'est beaucoup plus flou et tout cela n'est pas encore dessiné.
Mais vous dites quand même, pour répondre à la question, ça n'est pas sûr, ça n'est pas certain qu'Emmanuel Macron soit au deuxième tour. C'est-à-dire qu'il gagne la bataille du premier tour et tout autant pour Marine Le Pen. Mais d'où peut venir le danger alors, par exemple pour Emmanuel Macron ?
Alors, Emmanuel Macron, aujourd'hui, son équation est la suivante. Il a pris acte, à tort ou à raison, du fait que Marine Le Pen et le Rassemblement National seraient sans doute, pense-t-il, au second tour.
Ça l'arrange.
Alors, ça l'arrange, mais c'est aussi une analyse lucide qu'ils ont établie à l'Élysée. Et donc, face à cela, il faut que dans le cercle de la raison, cher Alain Minc, eh bien, il faut être majoritaire, il faut être en tête. Et donc, il faut se débrouiller pour être le candidat qui arrivera à ce fameux niveau de 20 à 25% qui vous offre la qualification face à Marine Le Pen. Dans ce cadre-là, d'où peuvent venir les concurrences ? Eh bien, soit de la gauche, soit de la droite. De la droite, puisque celle-ci n'a pas dit son dernier mot. Et Emmanuel...
Mais qui est à droite ?
Alors, on reviendra sur la question des personnes tout à l'heure, mais si on rembobine un petit peu le film, Emmanuel Macron, en 2017, arrive à faire imploser le vieux système politique, mais il déstabilise surtout le flanc gauche. C'est le Parti socialiste qui est très durement touché. La droite s'en sort mieux. Rappelez-vous qu'en dépit des nombreuses péripéties qu'a connues la campagne de François Fillon, ce dernier fait quand même 20% au soir du premier tour et rate la qualification à 1,5 point. Quelques semaines plus tard, les candidats qui se revendiquaient de l'étiquette des Républicains sont une centaine à être réélus aux législatives. Et depuis lors, on peut relire le quinquennat d'Emmanuel Macron en partie comme cette volonté de casser l'autre pilier du vieux monde politique qui avait résisté, c'est-à-dire les Républicains.
La droite républicaine.
D'où la nomination d'abord d'Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin à l'époque au budget, puis un certain nombre de réformes également sur la SNCF, sur le marché du travail, sur l'ISF. Et puis, nouvel étage de cette stratégie, ce qui s'est passé avec le remaniement et le fait que le centre de gravité de la Macronie est glissé vers la droite. Donc là, il y a cette stratégie d'essayer d'empêcher toute émergence de leaders ou d'offres politiques sur la droite, avec un œil toujours vigilant du côté gauche, où là, de mon point de vue, la menace pour Emmanuel Macron pourrait résider dans l'émergence d'une forme de coalition ou d'alliage entre les roses et les verts, entre le Parti socialiste et les écologistes.
Ce qu'on a vu déjà durant les municipales.
Ce qu'on a vu au moment des municipales, vous avez raison, et juste après, lors d'une réunion à Tours, alors à Tours, il y a un siècle, c'était le congrès de Tours où l'IAIC FIO avait implosé entre socialistes et communistes. Là, il y a peut-être eu à Tours les prémices d'une union, d'une convergence entre des maires socialistes et des maires écologistes pour faire émerger ce que Olivier
en
Faure...
En quelque sorte, un nouveau congrès de Tours.
Voilà, une réunification de la famille sociale-écologiste, réunification qu'appelle de ses voeux Olivier Faure du Parti Socialiste. Dans ce contexte-là, une personnalité comme Anne Hidalgo incarne, même si elle s'en défend aujourd'hui, un espèce de point d'équilibre entre cette sensibilité socialiste et puis cette ouverture sur les questions écologiques. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron va être vigilant. Donc, on a une nouvelle étape ou une nouvelle saison du « en même temps ». Ce n'est plus « et droite et gauche », maintenant c'est « et droite » avec Castex et « écologie » avec un égrenage et une déclinaison, à mon avis, très régulière maintenant, des différentes mesures qui ont été demandées lors de la Convention citoyenne sur le climat. Nous en avons une première vague qui a été présentée par Madame Pompili, et on peut penser qu'on aura d'autres annonces sur l'écologie pour essayer d'équilibrer et d'occuper un petit peu cet espace central pour agréger face à Marine Le Pen.
Alors, Jérôme Fourquet, on va marquer une première pause publicitaire. On va revenir sur le fait qu'Emmanuel Macron veille au grain aussi bien ce flancard sur la droite que sur la gauche. C'est exactement l'analyse que vous venez de nous faire.
Les grands entretiens sur Europe 1. Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet, on revient sur ce que vous venez de nous analyser, c'est-à-dire qu'il y a un socle pour le président de la République. Est-ce qu'il est égal à celui qu'il a fait gagner en 2017? Mais il est plutôt de couleur de droite, droite républicaine, que de gauche.
Alors,
et il n'est pas assez vert non plus.
Alors, il se produit un phénomène tout à fait intéressant dans la science politique et dans l'analyse politique autour de cet électorat macroniste. Nous avons assisté à l'émergence d'un nouvel électorat il y a 3 ans maintenant, au moment de la présidentielle. Comme il n'y a pas de génération spontanée en politique, ces électeurs venaient bien de quelque part. Ils se sont agrégés autour d'Emmanuel Macron. Une bonne partie venait de l'ancien centre, du MoDem de François Bayrou. Une majorité, pas loin de 50%, venait plutôt du centre-gauche.
Oui, mais ça, c'était le temps du en même temps.
C'était le temps du en même temps, les débuts du macronisme. Et puis, une petite minorité venait de la droite. Aujourd'hui, les enquêtes qu'on peut mener nous montrent que le score ou le socle électoral du macronisme est à peu près au même étiage qu'il était il y a 3 ans. À ceci près que nous avons une recomposition de cet électorat. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, cet électorat ne s'est pas désagrégé, mais il a muté. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Il est comme le Covid, quoi.
Il est un peu comme le Covid, ou comme...
Et il mute dans quelle direction?
Eh bien, les enquêtes nous montrent qu'il y a un déplacement à droite de cet électorat. Alors, comment cela se traduit-il? C'est pas forcément des
mais
gens...
Mais pardon, excusez-moi, mais Jérôme Fourquet, est-ce que c'est l'électorat d'Emmanuel Macron qui mute ou c'est la société qui mute?
Alors, c'est en partie la société, mais le mouvement est assez léger vers la droite. C'est plutôt clairement l'électorat d'Emmanuel Macron ou les soutiens d'Emmanuel Macron qui ne sont plus exactement les mêmes que ceux qui l'ont porté au pouvoir il y a 3 ans.
C'est-à-dire qu'ils sont plus à droite.
Ils sont plus à droite. Toute une partie importante des gens qui avaient voté pour lui et qui venaient de la gauche l'ont quitté parce qu'ils ont bien vu que le centre de gravité s'était déporté. Et ils ont été remplacés par des électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour lui et qui venaient plutôt de la droite. Et donc tout ça explique qu'on a un déplacement de ce centre de gravité. Alors, on est dans la dialectique de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que la stratégie d'Emmanuel Macron vise à conquérir cet électorat et aussi cet électorat, du coup, qui se reconnaît davantage dans la ligne politique, dans les personnalités qui ont été choisies. Et donc, même si on a parlé de Madame Pompili, pour parler de la figure du garde des Sceaux qui a été choisie, tout ça, aujourd'hui, en termes d'équilibre, plaît plutôt à la droite. Et vous savez qu'à droite, une valeur forte, c'est le pragmatisme. Et donc, je pense que beaucoup d'électeurs de droite qui ne sont pas adeptes du Parti communiste chinois pour autant, mais ont fait leur l'adage de Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat, ce qui compte, c'est qu'il attrape les souris. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'Emmanuel Macron ne venait pas de chez eux, mais tant qu'il tient les rênes du pays dans une situation économique et sociale déprimée, dans un contexte géopolitique assez instable et que sur un certain nombre de marqueurs régaliens, économiques, la politique qui est menée va plutôt dans leur sens, eh bien ces électeurs finalement s'en satisfont.
D'où un Premier ministre plutôt de droite, Jean
anciennement
Castex.
Anciennement sarkozyste.
Anciennement sarkozyste, enfin plutôt filloniste, puisque il a voté pour François Fillon aux primaires de la droite et pas pour Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler. Bruno Le Maire, évidemment, ministre de l'économie, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est-à-dire les ministères régaliens. Est-ce que cet électorat de droite qui votait donc pour les Républicains est résigné maintenant en adhérant à la Macronie parce qu'il n'a pas, au fond, de leader de droite à suivre?
Alors, nous avons différentes familles de droite. La frange juppéiste a été séduite, conquise relativement précocement dans le courant du quinquennat. Une partie des juppéistes avait déjà voté pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Ils ont achevé d'être convaincus avec la nomination d'Édouard Philippe, et puis au moment des européennes et de la crise des Gilets jaunes, où cet électorat européen, réformiste, modéré, a fait bloc autour d'un candidat réformateur, pro-européen et attaché à la défense des institutions. On a une autre famille de la droite qui est le plus sarkozyste, dont l'objectif pour Emmanuel Macron est aujourd'hui de la conquérir, d'où les dernières nominations et puis les prises de position. Alors cet électorat-là peut être tenté par pragmatisme de voter à l'efficacité, de dire bon voilà, dans la situation très instable que nous connaissons, finalement Emmanuel Macron n'a pas un si mauvais bilan que cela, il fait un certain nombre de réformes, et ce pragmatisme s'accompagne sans doute aussi pour certains d'entre eux d'une dose de résignation, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une offre clairement estampillée LR qui conviendrait parfaitement à leurs opinions, mais qui donnerait aussi des perspectives de victoire, parce qu'on est pragmatique et on cherche la victoire, eh bien, on se rabat sur cette opportunité-là.
Alors, est-ce qu'ils peuvent se rabattre, justement, sur un candidat venu des Républicains, bien qu'il se soit mis hors du parti des Républicains, comme Xavier Bertrand, qui vient de dire en Corse, au moment de ses vacances, qu'il se préparait à l'élection présidentielle et qui peut être le chantre social que craint d'ailleurs Emmanuel Macron.
Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'archipel et les espaces politiques et les seuils de qualification. Tout candidat de droite, aujourd'hui, est quand même confronté à une contraction de l'espace politique de droite. Les électeurs d'électorat de droite n'ont pas disparu, ils sont encore même assez nombreux, sans doute plus nombreux que ceux qui se revendiquent clairement de gauche. Pour autant, cet espace est soumis à une forte occupation des concurrences. Depuis longtemps, sur la droite de la droite, pèse la concurrence de Marine Le Pen. Et depuis plus récemment, depuis l'avènement du macronisme, nous avons maintenant, sur tout un flanc du centre-droit, la concurrence macronienne. Et donc aujourd'hui, dans les sondages, quand on teste Xavier Bertrand, quand on teste Valérie Pécresse ou le François Baroin, eh bien, on est sur des niveaux de vote, alors, ce ne sont que des sondages, mais aux alentours de 12 ou 13%. Donc on est sur un noyau dur de la droite qui continue d'exister, mais qui est réduite vraiment aux acquêts, avec toute une partie de la droite qui, par encore une fois, pragmatisme, tournerait plutôt aujourd'hui vers Emmanuel Macron. Donc la question pour la droite est une question de positionnement par rapport à Emmanuel Macron. C'est qu'avons-nous de plus et de mieux à dire qu'Emmanuel Macron ? Xavier Bertrand, dont vous parliez, va essayer de jouer un positionnement social et de s'appuyer sur l'image d'un candidat des territoires face à un pouvoir macroniste qui serait très hors-sol, très métropolitain.
Mais Jérôme Fourquet, compte tenu de tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, les crises sociales, les grèves, ça peut être un discours qui peut être entendu, celui de Xavier Bertrand.
Oui, il peut être entendu.
D'autant qu'il gouverne, il dirige les Hauts-de-France, et évidemment, son action est très sociale.
Tout à fait. Donc c'est son principal atout. Encore faut-il que des électeurs de droite, mais d'ailleurs également, adhèrent à cela et le fassent émerger. Pour une candidate comme Valérie Pécresse, la situation est plus difficile parce que la plus-value ou sa capacité de différenciation par rapport à Emmanuel Macron est quand même beaucoup plus restreinte.
Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres que je voudrais vous poser avant que nous passions évidemment à la menace pour Emmanuel Macron qui pourrait venir de la gauche. L'électorat français est-il mûr pour voter pour un outsider du modèle du Premier ministre anglais, Boris Johnson, ou du président américain Donald Trump? Est-ce qu'il peut surgir justement un candidat de ce modèle-là?
Alors, il faut bien voir que en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, on a des systèmes politiques qui sont très particuliers, qui sont à un tour, qui permettent sans doute davantage ce type d'expérience. C'est le premier point. Le deuxième point, au moins pour la Grande-Bretagne, nous avons un outsider, mais qui est un pur produit du système. Boris Johnson, il n'était pas à UKIP, il n'était pas dans une formation radicale de droite.
Non, c'était un conservateur.
Un conservateur qui a fait les grandes écoles, les grands collèges britanniques. Donc, il vient du système et il a émergé à la suite du Brexit. Trump, lui, a pour le coup un parcours plus d'outsider. Mais on rappellera que s'il a gagné les élections, il a perdu le vote populaire. Alors, ce n'est pas pour minimiser la portée de sa victoire, mais c'est un peu pour la relativiser. Chez nous, je pense, à l'heure où on se parle, que cette hypothèse est assez...
théorique.
Assez peu probable. D'une part, parce que du côté des outsiders, nous avons déjà toute une partie de l'espace qui est occupée à gauche et à droite par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et puis, du côté de l'intérieur du système, à sa façon, quelqu'un a déjà joué cette pièce il y a 3 ans maintenant, c'est Emmanuel Macron, qui a pratiqué une forme de dégagisme vers l'eau. Donc, il ne faut jurer de rien. Vous avez pris les exemples anglo-saxons, britanniques et américains. On pourrait se référer à ce qui s'est passé de l'autre côté des Alpes il y a quelques années, autour du mouvement 5 étoiles. Nous ne voyons pas aujourd'hui de figure qui serait capable de jouer le rôle d'un BP Grillo français. Si une telle figure émergeait, elle émergerait ou elle aurait émergé à l'occasion des graves crises que nous avons traversées ces dernières années. Si on fait le bilan, quelle figure reste du conflit des Gilets jaunes? Aucune. Quelle figure reste du conflit 55 jours de grève, du conflit des retraites 55 jours à la SNCF? À l'époque, en 1995, Bernard Thibault, qui était le leader de la CGT des cheminots, avait émergé, était devenu le patron de la CGT. On n'a rien vu émerger. Et quelle figure a émergé de la crise du Covid? Alors, certains ont agité l'hypothèse Raoult. Apparemment, il est retourné à sa paillasse et à son laboratoire. Et donc, on n'a pas vu non plus, à ce moment-là, émerger de figure. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, mais tout cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein, si on revient à l'hypothèse italienne, on avait un comique qui ressemblait quelque part à un Coluche français. Et nous n'avons plus
Beppe Grillo, justement.
Beppe Grillo. Et puis, on avait derrière lui un intellectuel qui avait organisé le logiciel idéologique du parti, le réseau Internet qui a permis l'émergence de tout cela. On ne voit rien de cela à l'heure où on se parle. Encore une fois, il faut être très modeste et très prudent.
Très bien. Alors, on va marquer une deuxième pause publicitaire. Et puis, on va revenir sur, évidemment, une grande partie, celle de la gauche. Puisque la gauche parlementaire est fragmentée, mais elle existe. Et on l'a vu avec les municipales.
10h, 11h sur Europe 1. Les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet de l'IFOP, bien sûr, mais aussi l'un des meilleurs spécialistes de la mesure de l'opinion publique française, et puis qui a créé ce nouveau modèle d'analyse politique, cette nouvelle grille d'analyse, qui nous permet aujourd'hui de vous demander de faire une radiographie de l'électorat français, à la veille de la rentrée politique, demain, 24 août, et à moins de 600 jours de l'élection présidentielle. Alors, on a beaucoup parlé de la droite, du socle électoral qui est plutôt de coloration droite, centre, droit, d'Emmanuel Macron. Nous allons maintenant parler d'une autre menace, parce qu'elle existe quand même, cette menace, même si elle est moins visible, si vous voulez, celle de la gauche, qui peut venir de la gauche. Je vous disais juste avant que la gauche parlementaire était fragmentée, qu'elle existe. Les élections municipales ont montré qu'elle a été capable de s'unir avec les écologistes. Est-ce que c'est une menace réelle pour Emmanuel Macron dans le cadre des présidentielles?
Alors, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, Emmanuel Macron a très durablement et profondément déstabilisé le Parti socialiste, hein, qui... a été considérablement affaibli. Alors, ce dernier conserve des bastions, on l'a vu au municipal, mais il ne vous aura pas échappé que la plupart des maires socialistes qui ont été reconduits l'ont été dans un contexte très fortement abstentionniste, mais aussi et surtout, alors aussi vous l'avez dit dans le cadre d'alliances avec d'autres forces de gauche, mais aussi et surtout souvent en cachant très judicieusement leur étiquette socialiste. Donc ils ont été réélus sur leur bilan et sur leur nom. Donc cette force
sociale... Ils ont quand même gardé beaucoup de villes. Hein.
Non, ils ont gardé, bien sûr, bien sûr.
Nantes, Rennes, Paris, Lille, Dijon, Le Mans. La droite a même voté pour Martine Aubry à Lille.
Ils en ont même conquis quelques-unes. Mais alors, je vais faire une petite parenthèse pour le Parti socialiste et la droite, quelque part, on a vu au municipal la résistance des forces de l'ancien monde, si on reprend la grille de lecture macronienne, et à l'inverse, les forces qui, au niveau national, sont plutôt dominantes aujourd'hui, les macronistes et les lepenistes, ont essuyé de graves déconvenues au municipal. Donc on a une espèce de dissociation entre la sphère nationale et la sphère locale. On est peut-être, quelque part, dans une situation qui ressemble à ce qu'on a connu au début de la Ve République, quand le général de Gaulle avait émergé très clairement et une très forte capacité d'incarnation au plan national, avec en face de lui les communistes, mais que pendant plusieurs années, au niveau local, au municipal notamment, les vieilles forces estampillées 3e et 4e République
ont résisté. Longtemps.
Donc on est sur un ancien monde qui fait de la résistance au niveau local, et puis un nouveau monde qui continue de dominer sans être hégémonique, hein, parce que c'est chacun entre 20 et 25%, ce qui n'est quand même pas énorme, au niveau national. Sur la base de ce constat-là, si on s'intéresse à ce qui se passe autour du Parti Socialiste, on voit que le Parti Socialiste seul n'a pas aujourd'hui la capacité de créer une alternative ou de faire émerger une alternative au macronisme. Et ce qui peut être plus dangereux pour Emmanuel Macron, c'est si se constituait, c'est pour ça que nous parlions de la réunion de l'initiative de Tours tout à l'heure, si se constituait une espèce d'alliance ou d'attelage social-écologiste qui, là, pour le coup, pourrait, dans le contexte actuel, dans de bonnes conditions, eh bien, faire advenir un candidat autour de 20%. Et donc là, on est dans une situation qui serait beaucoup plus dangereuse pour Emmanuel Macron. D'où le fait que nous ayons eu ces premières annonces en matière écologique pour essayer de casser cette dynamique et occuper une partie de cet espace. Sans doute aussi...
C'est-à-dire la contre-attaque, en quelque sorte, du président de la République.
Voilà. Ces annonces en matière écologique, elles répondent à deux objectifs. D'une part, envoyer des messages et des signaux à l'opinion publique dont toute une partie est de plus en plus sensible à ces questions-là. Le récent épisode de canicule que nous avons connu, la crise du Covid qui, on l'a vu nous dans nos enquêtes, pour beaucoup de Français a été perçue et décryptée comme une crise aux racines écologiques, alors que c'est quand même une crise sanitaire. Tout ça a incité Emmanuel Macron à prendre en charge encore davantage la question écologique. Vous vous souvenez qu'il l'avait déjà fait à l'été 2019, au lendemain des européennes, où les écologistes avaient 13% des voix. Mais cet intérêt pour l'écologie est aussi un intérêt très calculé pour essayer d'éviter la constitution de cet espace social-écologique qui pourrait déboucher sur une candidature qui serait de nature à menacer l'hégémonie d'Emmanuel Macron sur cet espace central.
Mais ce que vous dites, ce que je retiens, vous me direz si j'ai raison, c'est que les résultats d'ensemble des élections municipales peuvent se traduire par une dynamique sur le plan national au moment des présidentielles de 2022.
Alors, encore une fois, on a parlé de dissociation entre les deux niveaux. C'est-à-dire que le rapport de force qui s'est dessiné au soir du deuxième tour des municipales, avec 60% d'abstention, hein, rappelons-le,
c'est vrai,
nous a montré qu'il y avait une très forte prime au sortant et un ratage complet de la stratégie d'implantation locale du macronisme. Pour autant, on a parlé de la droite tout à l'heure et nous parlons maintenant de la gauche. Est-ce que, fort de ces centaines de maires chacun, le PS et les Républicains sont-ils aujourd'hui en capacité de faire émerger un programme et un leader au niveau national? On les cherche encore. Donc ça ne veut pas dire que ces municipales doivent être écartées d'un revers de main et qu'elles ne comptent pour rien.
Mais vous n'écartez pas non plus l'existence d'un axe d'alliance entre les écologistes et le Parti socialiste est dès lors un candidat dangereux pour Emmanuel Macron, susceptible de l'affaiblir pour la bataille, dans le cadre de la bataille du premier tour des élections présidentielles.
C'est tout à fait ça, et donc on a parlé tout à l'heure de ce qui se disait, ce qui se tramait autour d'Anne Hidalgo, même si la première intéressée dit qu'il ne faut pas compter sur elle pour l'instant. On voit aussi...
C'est souvent le discours qu'on entend.
Voilà, vous connaissez ça par cœur. Nous avons aussi, on le voit, un maire écologiste de Grenoble, M. Piolle, qui ne fait pas mystère de ses velléités ou de son intérêt pour cette affaire-là. Et puis, on a noté aussi, alors même si ça causait un certain nombre de remous en interne, les propos de Olivier Faure, le patron des socialistes, qui s'est félicité sur les plateaux le soir du deuxième tour des municipales de l'avènement de ce bloc social écologiste, hein, comme si lui-même était intimement convaincu de la nécessité de dépasser les murs de la vieille maison socialiste et d'élargir tout cela pour faire pièce, encore une fois, au macronisme. Hein, donc c'est, à mon avis, une des clés, un des enjeux de la prochaine élection présidentielle. Il y aura une étape intermédiaire entre dans cette perspective. Ce sera les élections régionales sur nos grandes régions maintenant qui ont été redessinées, avec des scrutins proportionnels qui, là, peuvent avoir une dimension qui sera quand même plus nationale que ne l'ont été les municipales. Et donc là, on verra, par exemple, si nous avons des listes roses et vertes au premier tour ou au deuxième, et si ces listes roses et vertes, voire avec d'autres encore, parviennent à conquérir un certain nombre de régions et peut-être à faire mordre la poussière aux listes d'En Marche. On sera à moins d'un an de la présidentielle, et là, ce sera évidemment quelque chose, un point d'appui ou un tremplin pour une éventuelle alliance.
Alors justement, ça peut être un tremplin pour celui qui dirige les Hauts-de-France, c'est-à-dire Xavier Bertrand, qui reste, si vous voulez, de tonalité quand même des Républicains, même s'il ne fait plus partie du parti, en quelque sorte.
Tout à fait. Alors effectivement, les régionales vont être une échéance très importante pour les...
Une sorte de primaire.
Voilà, en grandeur nature, pour les socialistes et les écologistes, on vient d'en parler. Pour les impétrants à droite, vous avez parlé de Xavier Bertrand dans le Hauts-de-France. On a quelqu'un d'autre qui s'appelle Valérie Pécresse en Ile-de-France.
Bien
sûr. Il faudra regarder ce qu'il en sera. Et puis pour les autres forces politiques également. Rappelez-vous que les précédentes élections régionales s'étaient soldées par des défaites pour le Rassemblement national, mais que Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, avaient obtenu chacune à peu près 45% des voix dans leurs deux régions respectives, les Hauts-de-France et PACA, et ce qui avait donné une dynamique au Rassemblement national. De la même manière, si La République En Marche est parvenue, avec l'aide de la fin du Covid, à escamoter les municipales, une défaite aussi cinglante aux régionales, à un an de la présidentielle, sur des grandes régions avec un scrutin proportionnel, sera un signal qui sera beaucoup plus difficile à cacher ou à masquer.
Alors, on n'en a pas fini avec la gauche. On va marquer une dernière pause publicitaire. Ce sera la quatrième partie. On va quand même parler de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et puis, on arrivera à Marine Le Pen. Et je voudrais vous poser la question. Vous y répondrez dans quelques secondes. Est-ce qu'une victoire de Marine Le Pen est-elle possible ?
Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet de l'IFOP, sont en train de se dérouler durant ce week-end les universités d'été de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon va certainement annoncer quelque chose, peut-être même sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça va peser ? Est-ce que la France insoumise est aujourd'hui parée pour peser dans cette élection présidentielle ?
Alors, la France insoumise existe dans le paysage électoral, mais elle n'est qu'une des petites îles de l'archipel français. Et on a parlé tout à l'heure de la capacité d'agrégation. Jean-Luc Mélenchon, dans les circonstances très particulières de l'élection de 2017, était parvenu à incarner le vote utile à gauche et à capter autour de son noyau dur communiste et mélenchoniste beaucoup d'autres électeurs venant de la gauche, de l'écologie qui n'avait pas de candidat, ou du Parti socialiste qui voyait la campagne de Benoît Hamon descendre en vrille. Et donc, sur ce contexte très particulier, Jean-Luc Mélenchon était parvenu à agréger quasiment 20% des voix. Il y a eu ensuite mais c'est humain, une erreur d'analyse qui a été commise à la France insoumise. On a pensé que ce 20%, c'était un plancher et non pas un plafond. Or, les événements qui ont suivi ont montré que c'était plutôt le plafond et pas le plancher, qu'on a eu plutôt une désagrégation ensuite. Et donc, les élections européennes ont été très mauvaises. 6% pour la liste de la France insoumise et 2% pour les, ou 2,5% pour les communistes. Et aux dernières élections municipales, la France insoumise a été totalement invisibilisée avec une stratégie à géométrie extrêmement variable de candidatures solo ou d'alliances avec les communistes, dans d'autres endroits avec les écologistes. Donc, la marque Mélenchon existe encore, la marque France insoumise également, mais elle est plutôt aux alentours des, 6 à 10% que des 20% de l'époque. Ce faisant, dans le mécano, à gauche, il y a un pouvoir de nuisance qui est certain, c'est-à-dire que pour que l'offre sociale écologiste puisse émerger à un niveau susceptible de concurrencer Emmanuel Macron, il faut bien évidemment que du côté gauche de la gauche, rien de très solide et de très puissant n'émerge. Alors, il est sans doute illusoire de penser qu'on aura un candidat unique de toutes les gauches. C'est quasiment impossible. On rappelle, par exemple, que aux dernières élections municipales à Bordeaux, ville très emblématique, où une liste d'union des Verts et des socialistes conduite par M. Urmic était en situation de conquérir sur la droite et en marche la municipalité, mais qu'au deuxième tour, il y avait la présence d'un candidat d'extrême-gauche, Philippe Poutou, qui s'était maintenu. Eh bien, dans cette ville, la France insoumise avait appelé à voter pour Philippe Poutou, alors qu'il y avait une chance historique de victoire pour la gauche. Ça n'a pas empêché M. Urmic d'être élu, mais c'est intéressant de rappeler que cette capacité à s'unir ne va pas de soi à gauche. Et donc, si Jean-Luc Mélenchon, qui en sera sa troisième candidature au cas où il se déciderait, conserve un certain talent, une certaine image, elle est quand même écornée, cette image. Différentes affaires sont passées par là et la force propulsive qu'il y avait derrière aujourd'hui est moins forte. Néanmoins, il y a cette capacité de nuisance et à parasiter...
qui gêne finalement l'union de la gauche.
Qui gêne l'union de la gauche sociale et écologiste.
Alors, venons-en évidemment à Marine Le Pen. Est-ce qu'une victoire de Marine Le Pen est possible aux élections présidentielles de 2022?
Alors, encore une fois, il faut être très prudent et ne jurer de rien. Néanmoins, si on essaie de regarder les choses objectivement, dernier scrutin présidentiel, Marine Le Pen finit au deuxième tour à 35% des voix. C'est le double du score de son père en 2002 face à Jacques Chirac. Donc il y a une progression qui était tout à fait impressionnante. Néanmoins, pour gagner, non seulement il faut rééditer l'exploit de la dernière fois, c'est-à-dire de nouveau être au deuxième tour, mais non pas doubler le score de son père en 2002, mais quasiment le tripler, c'est-à-dire qu'à 35, il faut monter à 50% des voix. Cette capacité d'allonge, comme on dirait en boxe, aujourd'hui, je pense que le Rassemblement national ne l'a pas. Même si chaque scrutin a sa propre logique, si on regarde ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, on avait analysé, nous, à l'IFOP, et on avait identifié plusieurs dizaines de villes, souvent de taille assez modeste, dans lesquelles le Rassemblement national, aux élections nationales, faisait de très bons scores. Quasiment aucune de ces villes n'ont été conquises par le Rassemblement national au municipal. Il y a bien eu la victoire à Perpignan de Louis Alliot, une victoire importante, mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'ai la faiblesse de penser que s'il n'y a pas de majorité d'idées pour porter des maires Front National ou Rassemblement National dans de nombreuses villes, il est assez illusoire de penser qu'une majorité de Français serait prêt à tenter l'aventure. Je pense que le pays n'est pas arrivé à une situation de chaos et de décomposition telle qu'une majorité de Français se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. On voit bien, nous, dans nos enquêtes qualitatives, qu'il y a un vote d'adhésion pour une partie de l'électorat du Rassemblement National, une part d'adhésion qui est importante, mais que pour beaucoup d'électeurs, y compris ceux qui votent pour Marine Le Pen, mais aussi ceux qui ne votent pas pour elle aujourd'hui, la perspective d'une victoire de Marine Le Pen, c'est l'idée de renverser la table. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de Français qui n'ont pas envie de renverser la table, pour de bon. Ils sont en colère, mais il n'y a pas envie de renverser la table. Alors, vous me rétorquerez que tout ça peut se jouer aussi sur le différentiel de participation. On peut avoir beaucoup de Français qui, aujourd'hui, ce qu'on mesure aussi, nous disent « c'est la dernière fois qu'on a fait barrage à Marine Le Pen, pas qu'on la porte dans notre cœur, mais plus jamais nous ne voterons pour Emmanuel Macron ». Ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. je pense que la situation serait un peu différente dans l'entre-deux-tours si d'aventure Marine Le Pen était de nouveau face à Emmanuel Macron et si, par exemple, elle l'avait devancé au premier tour. Je pense que le Front républicain fonctionne encore, le barrage républicain fonctionne encore. Il est beaucoup moins efficace que par le passé, mais il n'y a pas la capacité encore, soyons modestes, pour le Rassemblement national, à l'heure où on se parle, de rallier un Français sur deux.
Alors, Jérôme Fourquet, vous avez pu constater, comme nous tous, qu'on a du mal à retrouver une vie sociale normale. Avec cette crise sanitaire, on vit masqué, on ne peut plus aller au stade. Dès qu'on demande le port du masque, on peut se faire tabasser, parfois même tuer, massacrer, comme chauffeur du bus à Bayonne, ou se faire battre dans une laverie à coups de batte de baseball devant ses enfants. Est-ce que c'est le signe d'une désintégration de la société française? Vous parlez de l'archipel français. Est-ce que, justement, ce n'est pas un phénomène, s'il s'amplifie, qui peut favoriser le Rassemblement national?
Alors, sur cette question de la montée des violences et de très fort degré de tension qui existe dans notre pays, je pense qu'on peut essayer de découper les choses. D'abord, tout ça ne date pas d'hier. Ça fait un moment qu'il y a des problèmes d'insécurité, d'extrême violence dans toute une série de territoires de la République. Sans doute que l'épisode du Covid a agi comme un phénomène d'accélération, c'est-à-dire qu'on a jeté encore plus d'huile sur le feu, on a des quartiers qui ont été confinés pendant des semaines et des semaines, et donc avec un effet cocotte-minute, on voit des gens qui sont à cran. Est-ce que tout cela est le symptôme d'une désintégration de la société française? Oui, sans doute en partie. Je pense que ça révèle aussi que deux choses. D'une part, le recours à la violence et le respect de la vie humaine sont des tabous qui ont cessé de fonctionner dans toute une partie de la population. Parler de l'agression du chauffeur de bus, le refus d'obtempérer au contrôle de police, etc. Ça aussi, ça existait avant, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté. Je ne dis pas dans l'ensemble de la société, mais dans une partie de la population. Ce que ça dit aussi plus profondément, et ça, ce n'est pas uniquement lié à la question de la violence, c'est que, et ça vient de bien plus loin, c'est la montée en puissance du phénomène d'individualisation de la société, où les freins aux désirs, aux besoins et aux requêtes individuelles n'existent plus. C'est-à-dire que, et donc ça va jusqu'aux formes les plus extrêmes, c'est-à-dire de contester, de se colter physiquement avec l'autorité si il y a ce frein au désir ou au besoin de certains individus. Donc ça, c'est des choses anthropologiques qui sont très profondes et qui sont très compliquées à juguler. Hein. C'est-à-dire que le Yaka Faucon, construire des places de prison, oui, mettre plus de moyens ou de budget à l'école, certes, mais on voit bien que c'est quand même une lame de fond. Alors, on peut se rassurer en constatant que ce n'est pas franco-français, mais ça pose des problèmes, c'est-à-dire à partir de quand l'individu est capable d'accepter de s'effacer face à des règles collectives. Je pense que c'est ça le fond de l'affaire.
Alors, la nomination de Jean Castex, c'est aussi une tentative de réponse aux fractures françaises, celles dont on vient de parler, avec l'accent mis sur l'autorité de l'État, la laïcité et une plus grande délégation de pouvoir au territoire. Mais au cas où cette tentative, c'est la dernière question, cette tentative ne fonctionnerait pas, les difficultés du président augmenteraient. Est-ce que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, redevenu maire du Havre, peut-il être un candidat de substitution de recours des électeurs modérés? Est-ce que vous l'avez mesuré, ça?
Alors, je pense qu'il est tôt pour le mesurer, et Édouard Philippe bénéficiait et bénéficie encore d'une bonne image dans la population, mais deux bémols à tout cela. Le premier, c'est que il s'est construit son image dans une posture d'absolue fidélité à Emmanuel Macron. Et donc, il ne peut émerger que si Emmanuel Macron ne se présente empêché. Pas. Il ne peut pas aller contre lui. Et le deuxième bémol, même s'il ne reste que 2 ans, c'est qu'une notoriété, une popularité, ça s'use vite. Et que si Édouard Philippe n'a pas de fenêtre d'opportunité pour se rappeler au bon souvenir des Français,
on va l'oublier.
On peut assez rapidement l'oublier, et vous êtes bien placé pour vous savoir dans l'univers médiatique que le rythme, le tempo s'est considérablement accentué ces dernières années. Et que, donc voilà, donc la perspective d'une candidature Édouard Philippe, comme vous le disiez, ça ne peut être, à mon sens, qu'une forme de recours au cas où la deuxième partie du quinquennat macroniste partirait complètement en vrille, comme était partie la fin du quinquennat de François Hollande.
En deux mots, pour terminer, quelques secondes, simplement. On marche plutôt vers une candidature, évidemment, au deuxième tour, une confirmation, en fait, au deuxième tour, d'Emmanuel Macron.
Alors,
je dis candidature.
Candidature, alors on se parle...
Après la bataille du premier tour.
Et après la bataille du premier tour, il semble avéré que le président se prépare et cette volonté, cette ambition...
Oui, il s'active beaucoup.
Même il s'active été. Beaucoup. Oui. Encore une fois, le précédent quinquennat nous a montré qu'il pouvait avoir des présidents qui étaient empêchés. La situation post-Covid est très instable, mais pour, en contrepoint de ce qu'on vient d'indiquer, quand on fait la comparaison avec François Hollande, c'est pour ça que le niveau de popularité actuel d'Emmanuel Macron, à 2 ans de l'échéance présidentielle, est bien supérieur à celui que connaissait à l'époque François Hollande. Donc il a aujourd'hui, Emmanuel Macron, la capacité, à l'heure où on se parle, de pouvoir être candidat. Nicolas Sarkozy l'avait eu aussi en 2012, mais ça n'avait pas été suffisant.
Il a été, mais il a été battu.
Et il a été battu, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup Jérôme Fourquet de l'IFOP. Vous nous avez dressé une radiographie, tracé une radiographie assez complète. J'espère qu'on y voit un peu plus clair. En tout cas, c'est mon cas.
Merci à vous.